Prenez une pincée d'infos anti-autoritaires.
On vous demande toute votre attention.
Une pincée de nouvelles de lutte.
Mais on serait de taille à lutter.
Un peu de zat. De grève. Du gaz de schiste. Du logement. Du féminisme. Bon, bref, secouez le tout, transvasez dans une bouteille, bourrez-y un torchon imbibé d'essence et jetez-y en direction des forces oppressives.
Quelle info du vendredi.
Du FMI et de l'Union européenne, accord sur un nouveau plan d'austérité sur 5 ans.
Ils ne veulent entendre parler d'aucun consensus.
Alors, on a demandé de marquer un gros sport en grève. On aura pu rajouter d'autres termes, hein, comme ras-le-bol de la pression, les menaces.
Ce qui est affolant, c'est qu'ils sont prêts à dépenser des sommes astronomiques.
Et bonsoir, le Canu Info du vendredi commence avec son célèbre proverbe du début de l'année. Cette année, ce sera en 2019, mange un keuf. En 2020, mange-en plein. De quoi on va parler ce soir?
Eh bien, 2020 commence évidemment par un mouvement social. Et donc, on vous fera un petit retour sur les grèves et les actions qui se passent un peu partout dans le pays actuellement.
Et puis, on vous passera un reportage sur le rassemblement de ce matin au Cordelier.
Ensuite, on vous donnera des petits conseils pour poursuivre ce mouvement.
Et ensuite, on changera complètement de sujet avec un reportage très très spécial qui s'appelle « Savez-vous planter les courgettes à la mode du budget ?»
Et du budget, on va logiquement aller sur la côte atlantique, à Bretignolles-sur-Mer précisément, où un autre reportage nous sera diffusé qui s'appelle « Les gardiens de la dune ».
Et puis évidemment, un Canu Info du vendredi ne serait pas un Canu Info du vendredi sans nucléaire. Et on vous passera les vœux du budget des EPR pour remplacer les vieux réac.
Et enfin, on terminera avec la rubrique internationale où on ira au Brésil et on vous parlera de Bolsonaro. Et voilà, le titre est trop long.
Pour finir par le traditionnel agenda.
Et un petit ACAB, si jamais vous avez un ACAB à proposer, vous pouvez appeler Radio Canu
au téléphone.
Alors, je suis censée savoir au...
Oui, regarde, juste en dessous du téléphone, il y a le numéro.
04 78 39 18 15, bien sûr.
Et on rappelle qu'on peut envoyer un SMS au 13 12 13 12.
Bonne écoute sur le 102.2, la plus rebelle des radios.
Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. Vive la République! Vive la France!
Mouvements sociaux.
Mais notre règne arrivera quand votre règne finira.
Rien et personne ne pourra étouffer une révolte.
Tu as semé la graine de la haine, donc tu la récoltes.
Les rebelles et les rebuts ont tous opté pour le boycott. Faisons en sorte que les aisés nous lèchent les bottes.
Et voilà, nous sommes en janvier 2020 et la grève dure dans secteur depuis un mois. Macron vient de faire ses vœux foireux qui sonnent comme une véritable déclaration de guerre. Le mouvement actuel n'est pas seulement plus long qu'en 95, il est désormais plus long qu'en 1986, alors qu'on atteint un mois de contestation. En 2018, par exemple, on atteignait 36 jours de grève des cheminots répartis, mais sur 3 mois. Et une des forces de ce mouvement contre le projet de réforme des retraites est d'avoir tenu pendant les fêtes de fin d'année pas de trêve des confiseurs quand on veut un monde meilleur. À Lyon, par exemple, après un rassemblement qui a réuni plusieurs centaines de personnes le 23 décembre, le mardi 24, c'est plusieurs de dizaines de personnes qui tractaient rue de la République pour rappeler qu'il n'y aura pas de trêve à Noël et que la lutte continue contre la réforme des retraites. Les cheminots et les cheminotes ont tenu bon les piquets de grève en cette fin d'année et 400 personnes étaient rassemblées devant la CARSAT le vendredi 27 décembre. C'est la caisse de retraite du privé. Un peu partout en France, le 31 au soir, autour des prisons de Villepinte, de Fresnes, de Nanterre et de Versailles, ainsi que du centre de rétention de Ménilamlo, ou encore à Saint-Étienne et devant la prison des femmes de Rennes, les prisonniers et les prisonnières ont pu voir et entendre pétards et feux d'artifice et échanger des cris de liberté. Le 2 janvier, c'était dans toute la France que le mouvement s'est poursuivi de plus belle. Un événement rarissime au lendemain du jour de l'an. Dépôt de bus bloqués et manif à Paris, rassemblement devant la réfrinerie de Donges, manif à Poitiers, marche au flambeau de Marseille.
Et il y en a d'autres qui ont de ce genre d'idées-là, par exemple à Vannes, les permanences des Républicains et de LREM ont été taguées pendant la nuit du 26 au 27. Avec des tags comme, si je me rappelle bien, « Coucou, c'est la retraite » et « Mort au capital ». Bon, on pourrait trouver mieux, mais voilà.
C'est clair. Et pendant ce temps-là, en fait, la SNCF a changé le 1er janvier 2020 de forme juridique, passant d'EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, à SA, société anonyme. C'est l'une des conséquences funestes de la réforme ferroviaire de 2018. Passer donc de EPIC à société anonyme, c'est ce qui est arrivé à GDF avant qu'elle ne soit privatisée et devienne Engie. C'est ce qui est arrivé à La Poste en 2010. C'est ce qui est arrivé à France Télécom avant qu'elle ne soit privatisée, avec la brutalité qu'on connaît, et devienne Orange. C'est ce qui est arrivé à Aéroport de Paris, avant qu'elle ne devienne ADP, etc., etc. Bref, c'est l'étape décisive et formelle pour privatiser une industrie de réseau, un monopole naturel. Parallèlement, je cite, « L'État actionnaire exige de la SNCF qu'elle fasse de sérieuses économies pour être plus compétitive dans un contexte d'ouverture du rail à la concurrence. » Et bien sûr, la société n'embauchera plus au statut de cheminot. Ça n'empêche pas les cheminots et les cheminotes de toujours être mobilisés, et encore aujourd'hui à Lyon. Et du coup, on a envie de vous les faire entendre en vous passant des sons qu'on a pris ce matin. On est vendredi 3 janvier 2020. Il est bientôt midi, il fait froid, mais au Canu Info du vendredi, on lâche rien. Petit retour sonore sur le rassemblement de ce matin.
Pour les retraites, on lâche rien.
Un gouvernement à la politique libérale assumée, allié zélé du patronat.
Chaque année, au 1er janvier, la promotion civile de la Légion d'honneur distingue des personnes illustres ou inconnues en les nommant chevaliers ou en élevant leur grade. Dans celle d'hier figure le nom d'un dirigeant de l'un des principaux fonds de pension, Jean-François Cirelli, président de BlackRock France.
BlackRock, c'est un gestionnaire de fonds, c'est le plus gros du monde. Bon, il gère quelques 6 000 milliards d'euros.
Oula.
Oui, qui lui sont confiés par des investisseurs pour les faire fructifier. Oui.
Délitement du service public.
Je suis professeure d'histoire-géographie en collège REP à Créteil et je vais faire grève pour dénoncer la réforme des retraites qui va nous appauvrir et dénoncer le manque de revalorisation de nos salaires depuis trop longtemps dans l'éducation nationale.
Il y a des matins, j'arrive à l'hôpital et je me dis, voilà, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Quelle mauvaise nouvelle on va nous annoncer? Il va manquer une infirmière, on va rajouter des patients qu'il faut voir en urgence, en consultation.
Et la base, elle n'est pas rassurée. Pourquoi elle n'est pas rassurée? Parce que tout est du mensonge. Qu'est-ce qu'il explique, le Premier ministre? Et rien que ça, les gens, ils devraient se révolter. Ils vont nous obliger à travailler plus longtemps. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vu que les gens, ils pourront pas travailler plus longtemps parce qu'ils seront cassés au chômage, en arrêt maladie ou en formation bidon, ils vont avoir leur pension qui va baisser.
Casse de l'emploi, baisse des rémunérations, paupérisation de la société. Cette toute fin d'année a bien évidemment été marquée par la réforme de la retraite à points voulu par le gouvernement afin de procéder au hold-up de millions d'euros de cotisations sur le dos des salariés dans le seul but d'engraisser le grand capital. En 2020, le combat continue. Et plus que jamais, nous pouvons gagner le retrait de cette réforme et ainsi être en position d'exiger le renforcement et l'amélioration du système actuel. Pour gagner cette bataille, il est essentiel que nous puissions élargir le mouvement. Nous devons lutter et renforcer le mouvement en gagnant la grève reconductible dans les entreprises. Gagnons que chaque salarié ait d'ici le 9 janvier un tract dans les mains, l'appelant à participer massivement à la journée d'action et de grève du 9 janvier, avec un rendez-vous en manifestation à 11h30 depuis la manufacture des tabacs.
Il y a plus d'une centaine de personnes.
Pourquoi t'es là aujourd'hui ?
Bah pour éviter d'être en, de pas avoir d'argent pour la retraite.
Et on est où exactement à Lyon là ?
Il y a pas de drapeau de
Cordelier.
Mais à Cordelier ? C'était sympa ?
Ouais.
Bah, je suis là effectivement, je suis venu avec mes enfants pour tenter de sauver le système de retraite que nous ont laissé les anciens. Ah, je ne vais pas revenir sur pourquoi on sera affecté. Dans le secteur associatif, on va être beaucoup plus affecté qu'ailleurs parce qu'on a énormément de carrières à trous. On a eu pendant très longtemps des statuts comme le statut de volontariat 95, etc. qui ont fait qu'on n'a pas cotisé comme tout le monde. Mais bon, à l'époque, on se disait que bah, ça fait partie du deal, on va prendre nos 25 meilleures années, etc. Là, maintenant, on nous change les règles du jeu en cours. Alors, on nous dit, oui, alors peut-être que les anciens ne seront pas affectés, que ça sera les jeunes. Mais moi, je trouve que ça mes enfants aussi, s'ils ont envie de s'engager dans le milieu associatif, s'ils ont envie de partir travailler quelques années en expatriation, eh ben, on ne doit pas leur retirer ce droit-là.
Pour les retraites, on ne lâche rien.
Et ouais, parce que du coup, ça fait quoi? C'est le 30e jour de grève aujourd'hui?
Oui.
Et du coup, comment ça se passe à Lyon?
Joyeux anniversaire. Bah, comment ça se passe? Bah, ça tient. Ça tient avec des plus et des moins. Aujourd'hui, on est plus sur un plus qu'un moins, du coup. C'est vrai que ça fluctue un petit peu. Surtout, on se dirige vers un 9 dont on espère qu'il soit très très gros et dont on a des raisons de penser qu'il sera très gros chez nous aussi. Voilà, c'est un petit peu ce qui va rythmer notre début de semaine. Et mine de rien, bah, cette perspective qui était lointaine et qu'on refusait hein, quand on s'est engagé dans le truc de dire pas de trêve, non, enfin voilà, les vacances, nous on sera là et il n'y a pas de vacances qui tiennent, pas de trêve qui tiennent face aux attaques gouvernementales, et bah bon, c'est vrai que pour nous, ça apparaissait un peu comme un truc à la fois très lointain, voire démobilisateur, cette date du 9, même si on comprend très bien que pour plein de gens qui avaient les vacances, leur boîte fermée, etc., ben voilà, ça apparaissait comme un truc crédible. Et ben voilà, on se retrouve un peu au pied du mur de ce truc-là, donc à le préparer, puis à préparer aussi la suite. Donc bon, voilà, on est encore dedans.
Et ben
alors du coup, moi, je suis à Pardieu, donc là, au quotidien, ben, c'est vrai que on a passé deux semaines. Là, c'est un peu fini, hein, mais en tout cas, jusqu'au lundi, là, juste avant le jour de l'an, c'était quand même un peu morose, je te cache pas. Bon, on se disait qu'il fallait tenir le plus longtemps possible et puis un peu coûte que coûte, mais sans non plus y croire énormément. Et je trouve qu'il y a un petit renversement qui s'est fait au niveau de l'ambiance depuis, avec l'idée hein, de tenir coûte que coûte, parce que bah voilà, on est de plus en plus persuadé que le mouvement va reprendre et l'interpro va se construire. Donc du coup, bah, comment ça va se passer là pour un peu le début de la semaine à venir? Et bah, premier encart, c'est lundi, où nous on va faire donc une diffusion de tracts pour le préparer le 9 un peu largement devant la gare de Pardieu à partir de 6h du mat, où on y sera, mais il y aura aussi des profs, il y aura aussi du personnel de, hospitalier, il y aura aussi les copains de l'énergie qui seront là, et on invite le plus largement possible, hein, parce que plus on sera nombreux, hein, bon, l'idée c'est de faire un truc un peu visible, Barnum, etc., côté Charles Bérosier, pour ben, voilà, fêter un petit peu la rentrée et le retour sur les bancs des grévistes de toute notre classe sociale. La caisse de grève, il y en a des locales, donc nous concrètement on en a une physique qui est autour de mon cou. Et puis il y en a une qui est en ligne, qu'on trouve sur le pot solidaire, et donc qui s'appelle Caisse de solidarité Cheminot Lyon-Pardieu. Voilà, vous pouvez trouver en ligne et financer. Donc là, elle a passé les 1 200 euros alors qu'on l'a mis en ligne il n'y a pas si longtemps. Voilà, ça c'est une première chose. Il y a les caisses nationales sur lesquelles bon, on ne s'interdit pas du tout hein, de demander une petite participation. Et puis voilà, alors bon, pour l'instant.
Un mois de grève quoi.
Ouais, alors on le sent pas encore financièrement, ça dépend. Hein. Chez nous, dans la boîte, on est très très éclatés, on est établissement différent. Pour la plupart des grévistes de Pardieu, les retraits sur salaire n'ont pas encore été faramineux. Moi, j'en suis à 4 aujourd'hui, sur le mois de décembre. Pourquoi ? Alors, peut-être parce qu'une partie de nos services administratifs étaient eux-mêmes en grève et que c'est pas remonté. Peut-être aussi parce que la boîte a envie de nous mettre un gros coup derrière la nuque à la fin de janvier et rassembler à la fois tous les jours de grève et puis les repos. Je ne vais pas rentrer dans le truc technique, hein, mais quand on était en week-end, par exemple samedi, dimanche, et qu'on est en grève le vendredi et le lundi, bah, tout compte comme des jours de grève, tout comme dans l'éducation nationale, par exemple. Et comme ça tombe qu'à partir du moment où on a repris le boulot, je pense que le jeu de la boîte, c'est aussi nous faire tomber l'ensemble de la note d'un seul coup pour dissuader un peu. Et bah, donc, ces caisses de solidarité serviront à adoucir un petit peu ce côté-là.
Et du coup, vous êtes encore beaucoup de grévistes dans les
Ça dépend. C'est vrai que ça il y a des secteurs plus mobilisés que d'autres, hein, on ne va pas se le cacher, notamment les conducteurs de train, ce que je ne suis pas du tout. Mais même dans le personnel de la gare, c'est vrai que bon, c'est fluctuant. Assez peu de gens qui sont, comme moi ou quelques camarades pouvons l'être, hein, en reconductible depuis le début. Mais mine de rien, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une animosité entre ceux qu'on fait un petit peu la perlée comme c'était possible et ceux qui ont tout fait. Et je pense que l'enjeu de ces grosses dates, hein, on va essayer de se remettre massivement dans le mouvement pour les dates de l'Interpro, j'ai pas l'impression qu'il faille ramer beaucoup pour recoller des relations qui auraient été distendues. Et ça reste quand même une grosse victoire. Premier bout de victoire d'avoir tenu toute cette période des fêtes. Deuxième bout de victoire de ne pas avoir gâché les relations avec les collègues qui sont retournés au boulot peu ou prou sans totalement lâcher le mouvement. Quoi. Voilà. Bah non, c'est tout bon.
Pour les regrets, on ne lâche rien.
C'est maintenant à nous d'être à la hauteur et de passer à la vitesse supérieure pour gagner une bataille dans la guerre sociale. Si cette grève est aussi forte, c'est parce qu'elle ne se contente pas de puiser dans le répertoire classique de la mobilisation sociale. Ce mouvement de grève s'appuie sur une année de lutte incroyable avec les Gilets jaunes. Mais il s'appuie aussi sur la radicalité du mouvement contre la loi travail en 2016 et 2017 et sur la bataille des cheminots et cheminotes et des étudiantes en 2018. Autant de combats dont les échecs sont peut-être en train d'être dépassés et dont certaines réussites se sont finalement consolidées. Comme le soulignait très justement une gréviste de la RATP lors d'une AG à Saint-Lazare, la référence c'est pas 95 ou autre chose, la référence c'est 2019 et on aimerait bien rajouter maintenant c'est 2020. Certains secteurs comme les transports ou l'énergie sont en grève reconductible. Bravo à eux, bravo à elles. On ne peut pas vraiment leur demander de faire beaucoup plus de choses, nous on peut les soutenir avec les caisses de grève notamment et pas les laisser seuls, allez aussi les rejoindre sur les piquets de grève et du coup on vous rappelle que toute la semaine prochaine il y a des piquets de grève et APRH et Appardieu et qu'on peut y aller vers 6h30-7h si on est matinal. Le secteur de l'énergie devrait se muscler aussi, on sait que la CGT Énergie a déjà fait plusieurs coupures de courant, qu'elle a aussi basculé en heure creuse plusieurs milliers de foyers dans le Rhône notamment. On sait aussi que les raffineries devraient se mobiliser la semaine prochaine à partir de mardi et être bloquées pour, je pense, la totalité. Les profs vont aussi reprendre le mouvement à la rentrée. Les lycéens, les lycéennes, les étudiants, les étudiantes seront peut-être aussi de la partie. En tout cas, des appels à bloquer les lycées commencent à circuler. Pour les autres salariés ou pour les personnes pas salariées, on peut aussi faire grève dès maintenant et autrement. Quelques idées commencent déjà à circuler et elles ont surtout déjà été mises en place. On peut évidemment décorer massivement nos rues de slogans. On peut bloquer les dépôts de bus, ça s'est beaucoup fait à Lyon notamment en décembre, mais aussi les entrepôts logistiques, les ports commerciaux. On peut bloquer le périphérique à l'heure de pointe. On peut occuper des centres commerciaux. On peut occuper ou piller les centres commerciaux et redistribuer la nourriture sur les piquets et aux personnes qui crèvent devant ces centres commerciaux. On peut saboter les moyens de transport ubérisés, comme les trottinettes ou les Vélib. on peut, et évidemment, on va se retrouver dans des cortèges offensifs durant les grandes manifestations syndicales, la prochaine, le 9 janvier.
Et des fois, quand on va à une grande manifestation syndicale ou qu'on a envie de repeindre la ville, eh ben, on manque un petit peu d'idées. Et du coup, le Canu Info du vendredi est là pour vous aider. Nous avons retrouvé un certain nombre de slogans que vous pouvez inscrire sur vos pancartes, sur vos draps, sur ce que vous voulez. Et on va vous les dire. Le premier, ça serait « Never Black Rock, Forever Black Block ».
Tout le monde déteste Airbnb.
Ou bien, vous pourriez écrire « Poudre de perlin point point ».
Retraite à point, dans ta gueule, pardon.
Et alors là, petite référence au mouvement des gilets jaunes, si tu touches à nos retraites, on ressort les transpalettes.
L'heure est en grève.
Nouvelle référence au mouvement des gilets jaunes, le gilet jaune mais ne rompt point.
Retraite à point, retraite sanglante.
On pourrait aussi dire « retraite à boîte ».
Retraite du gouvernement.
Et alors là, un autre truc un peu différent, on ne veut pas que le gouvernement recule, on veut qu'il disparaisse.
Si t'es fier d'être un macho, tape dans tes couilles.
Et pour finir, un petit slogan un peu bande FM, comme quoi à la radio on y pense aussi, moins de policiers, plus de Beyoncé.
Et pour finir, on vous fait un petit point sur les caisses de grève au vendredi 3 janvier, du coup aujourd'hui, parce que les caisses de grève, ça marche et c'est aussi pour ça que ce mouvement il peut perdurer et se consolider. De ce qu'on a trouvé sur un site qui recense les caisses de grève, il y en aurait 171 au moins, puisque du coup il y en a 171 recensés par ce site-là. Et pour un montant, je vous le donne, allez, une idée du montant.
3,4 millions.
Ah, vas-y.
3,4 millions.
Ok, bon, tu avais... c'est le juste prix, effectivement. Non, c'est 2,476,283 euros pour environ 43,349 participants, participantes.
Et on peut rappeler aussi que c'est les caisses en ligne, mais qu'on peut aussi... Il y a des boîtes hein, dans les manifs où on peut aller filer de la thune en direct. Ça évite notamment de filer de l'argent à des plateformes internet qui sont bien contentes hein, de l'organisation de ce genre de choses et qui récoltent vos jolies données pour faire de l'argent.
Et du coup, si ça se trouve, on est déjà à 3 millions grâce à ces caisses de grève directe.
Exactement.
Et voilà, on a fini ce petit point sur le mouvement social pour aujourd'hui. On vous donne évidemment rendez-vous le 9 janvier, mais aussi avant, dès lundi, sur les piquets de grève. Et puis, on vous le redira dans l'agenda. Mais tout le monde se mobilise. On imagine qu'il y aura des AG dans différents secteurs d'activité dès le début de semaine. On sait déjà qu'il y a une AG féministe le mercredi 8 janvier à la Bourse du Travail à 18h avant la manifestation. Et vous trouverez sur le net plein de tracts à imprimer et à distribuer à vos petits camarades dès demain.
Et maintenant, on va passer à tout autre chose, enfin pas complètement tout autre chose, mais on va vous raconter une histoire, puisque dans le budget, a priori, il ne fait pas très bon de faire du potager sur des ronds-points. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout se passe sur le plateau d'Hauteville. Alors Hauteville, c'est dans le budget, donc entre Lyon et Genève. Et Hauteville, ce sont des stations de ski, de fond et de piste, des hôpitaux et des sanatoriums. Mais c'est aussi et surtout le royaume des grands projets inutiles, des forages divers et variés, pétrole, schiste, eau chaude, des aérodromes sans avion, des éoliennes qui prennent feu, des tunnels pour des trains fantômes, des canons à neige qui font flop. Et voilà, et voilà. Donc il y a tout ça. Et dans le royaume des grands projets inutiles, et ben malheur à celles et ceux qui plantent des légumes sur des ronds-points. Et oui, la commune d'Hauteville traîne en justice une personne pour avoir fait un petit potager sur le rond-point devant le casino. Donc casino, c'est, on parle bien de machines à sous, à ne pas confondre avec les machines à choux. Évidemment, voilà, je l'ai fait. Et donc, selon eux, il s'agit, je cite, d'un acte causant des dommages graves, à savoir détérioration du gazon recouvrant le rond-point en réalisant un potager pour alimenter les gilets jaunes manifestants. Donc ça, c'est la plainte, en l'occurrence. Et pour nous éclairer sur cette affaire, pour le moins sordide, le Canu Info est parti à la rencontre du jardinier inculpé.
Mois de mai dernier, on a investi le rond-point du casino d'Hauteville, donc dans le cadre des gilets jaunes, histoire de faire bouger un peu le coin. Et donc on a créé sur ce rond-point un joli potager avec quelques tomates, quelques courgettes, enfin bref, voilà. Suite à ça, donc le lendemain, la mairie nous a complètement détruit ce joli petit potager et est allé porter plainte à la gendarmerie pour dégradation de biens publics. On a fait ça, donc c'était fin mai. Enfin, le potager hein, en soi, le rond-point, on y est resté peut-être 2 mois. Après, on y est retourné au coup par coup, temps en temps. Mais le potager en tant que tel, il a fait une nuit, quoi. On l'a fait un vendredi soir. Le samedi matin, il n'y avait déjà plus rien. On était à peu près, je pense, une trentaine de personnes à être là-dessus. Donc aujourd'hui, je suis la seule à être condamné, quoi. Bien que, bah, du coup, par solidarité, il doit y avoir une vingtaine ou une trentaine de personnes donc, qui ont envoyé une lettre au procureur, une lettre de dénonciation spontanée pour se dénoncer comme ayant participé à l'élaboration du potager. Composition pénale, en gros, c'est pas vraiment un procès, c'est juste on nous propose une peine, enfin on me propose une peine, je l'accepte, ça reste là, et si je l'accepte pas, là j'ai droit à un autre procès. Là, l'idée ce serait de refuser la peine, vu que pour moi et pour nous, il n'y a pas de il n'y a pas de délit quoi là-dedans. Hein, c'est pas des courgettes et des tomates qui sont fautifs de quelque chose quoi. Donc ouais, ce serait de refuser cette peine lors de la composition pénale et de continuer donc au tribunal correctionnel.
Très bien, mais si vous voulez que je sois votre avocat, il va falloir fournir des réponses précises à quelques-unes des questions que je me pose. Par exemple, croyez-vous à la magie noire?
La peine, enfin, ce qu'on m'a dit, après ce serait à éclaircir un peu plus, mais ce serait soit des tiges, soit une amende, soit un stage de citoyenneté. Donc en gros, ça aura lieu le 29 janvier à 11h30. Là-dessus, donc il y aura sûrement on va faire un rassemblement un peu devant le tribunal d'instance donc de Nantua, hein, ce sera à Nantua. De toute façon, ouais, il y aura les collectifs un peu locaux qui s'occupent déjà. C'est un petit monde, hein, on se connaît tous. Donc là, il y a pas mal de gens un peu qui suivent l'affaire et qui se mobilisent pour faire un peu de bruit autour de cette affaire. Nous, bah, ce qu'on voulait, c'était quand même dénoncer un peu l'absurdité de cette plainte, parce que c'est complètement aberrant de mobiliser donc la gendarmerie, la justice pour une plantation de courgettes sur un rond-point, et d'autant plus que le maire de la commune, donc Monsieur Argenti, c'est la personne qui a mené à bien donc un projet de canon à neige sur la station de ski, en sachant qu'on a une station qui est à 900 mètres d'altitude, orientée plein sud. Donc bah, ça a été un fiasco total, hein, comme prévu. Donc ils ont bien ravagé la montagne à coups de bulldozer, et derrière on nous accuse de détérioration de biens publics. Donc je pense qu'il y a quand même une ironie là-dedans qui est pas mal. Je peux rajouter aussi que, donc, en plus des canons à neige, cette même personne donc a aussi lancé un projet de forage pour faire un centre aqualudique en espérant trouver de l'eau chaude. Et résultat, un petit peu d'eau froide et voilà.
C'est la meilleure mission que j'ai jamais faite.
en sait un peu plus. Et donc cet affaire frise un peu quand même le ridicule, mais la commune d'Hauteville, et notamment son maire Argenti, n'a peur de rien. Donc bien évidemment, on vous tiendra au courant de la suite de cette rocambolesque histoire. Mais en attendant, eh bien, comme vous l'avez entendu, il y a un rendez-vous qui est donné le 29 janvier donc, à Nantua. Et puis aussi, tout ça, ça s'inscrit notamment dans le, donc, les gens qui sont sur le plateau d'Hauteville luttent aussi, ben, évidemment, comme pas mal de monde, sur les retraites. Et donc il y a quelques actions qui sont prévues à Hauteville, autour de ce fameux rond-point notamment. Donc, notez les dates, donc 10 janvier, donc un vendredi, qui sera un rassemblement donc, à la salle des fêtes, pour ensuite, le 11 janvier, faire une manifestation dans les rues d'Hauteville. Donc voilà.
Hey yo, ceci est un message pour tous les MC. Dans vos chansons, vous dites que vous faites ci, vous faites ça, ok. Mais est-ce que vous savez planter des choux?
Ah ouais?
Non, parce que c'est bien de faire les mecs. Mais la vraie question, c'est quoi?
Savez-vous planter les choux?
Planter les choux.
À la mode de chez nous.
De chez nous.
Savez-vous planter les choux?
Planter les choux.
À la mode de chez nous.
De chez nous.
T'as mon petit potager, ça piquera. Du melon, de la tomate, de la betterave. Allez, venez tous faire un tour au turf. Planter la petite graine, moi c'est mon taf. Au salon de l'agriculture, j'ai fait mes preuves. Rien n'est plus ghetto que c'est mon taille. Y'a pas que toi qui peux te vanter, t'as fait sur les champs. Dis ma montre à tourner, gros, t'es mal à la taille de mes gens. Chez moi, on met des patates, on les plante et récolte par cent. Rien de brillant. Car on a de la pure frappe. À la Del Piero. Négro, même de la pluie, j'ai pas peur. J'ai toujours mes outils, mon arrosoir, mes bottes et mon
sécateur, 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 ouais. Mes livres font ça à la journée mauvaise. J'm'en tape des coquelicots. Les fruits et légumes, c'est pour faire des levées. J'y crame des haricots. Frérot, c'est quoi les bacs, c'est comment? Produit dans le frigo. Dans le direct, c'est moi qui tiens les commandes. Big crame de l'abricot.
Tu crois que t'es le seul, mais le flot de Migos, nous aussi dans le potager, on sait le faire. Nous on n'a pas de saison, on cultive toute l'année, même en hiver.
Vous savez, vous savez, vous savez. Vous savez, vous savez, vous savez.
Comment on plante les choux? Comment on plante les choux? Comment on plante les choux? Comment on plante les choux?
Savez-vous planter les choux?
Planter les choux.
À la mode de chez nous.
De chez nous.
Savez-vous planter les choux?
Planter les choux.
À la mode de chez nous.
De chez nous.
Savez-vous planter les choux?
Planter les choux.
À la mode de chez nous.
De chez nous.
Savez-vous planter les choux?
Planter les choux.
À la mode de chez nous.
De chez nous.
Ce matin, Thomas est en retard. Pourtant, en consommant du café et des produits bio et équitables, il est plutôt en avance.
Ta gueule !
Avec le jus multipesticide de Leclerc, faites aimer les pesticides à vos enfants.
On se trouve à Bretignolles-sur-Mer, sur le lieu qui potentiellement a été retenu pour un port de plaisance à l'initiative de monsieur le maire de Bretignolles, monsieur Chabot, qui l'a fait passer en communauté de communes. Il estime que ce port, c'est le port de 14 communes du pays de Saint-Gilles.
Reportage.
Je m'appelle Dune, gardien de la dune. Je suis marin skipper professionnel. Ici, on se trouve sur une dernière plage sauvage et naturelle de Vendée, qui est un site remarquable et qui est une zone Natura 2000. Le projet de port du départ, c'est-à-dire de l'entrée du port au niveau de la base de voile jusque dans les terres, représente 1 km de long pour 965 anneaux. Moi, je suis marin professionnel à la voile. Et on m'explique que c'est un port de plaisance pour les bateaux de plaisance. Sauf que, après réflexion et étude du site, c'est pas possible et il y a plein de raisons. D'un point de vue maritime, il faut savoir que pour déjà faire l'entrée de ce port, il va falloir qu'il explose à la dynamite la roche primaire. La roche primaire, c'est la roche primitive de la planète. Actuellement, à marée haute, on en voit un peu, et à marée basse, c'est toute la vision qu'on a quand on est sur la plage de Bretignolles et qu'on regarde au large. La roche primitive, aujourd'hui, elle protège plusieurs choses. C'est un sanctuaire pour les poissons. Il y a de la langouste, il y a du bar, il y a du maquereau. C'est une zone où ils se sentent bien. Et également, protège ce qu'on appelle le plateau vaseux qui se trouve à 10 km derrière. D'un point de vue de navigation, on prend une houle dominante de nord-ouest et de sud-ouest, une forte houle. L'Atlantique vient se fracasser directement sur nos côtes. Ça veut donc dire qu'il va falloir qu'il fasse une entrée de chenal avec une bouée au sud, puisque de toute façon, à marée basse, il ne va pas exploser toute la roche. Donc, il va nous faire contourner par le sud. Ce qui va poser une problématique, c'est qu'en cas de gros temps, on va avoir une houle de 3 quarts, 2 quarts et 3 quarts arrière, qui n'aura qu'une envie, c'est nous projeter sur ces digues. Moi, en tant que marin, je ne vais pas dans un port où j'ai un risque de me mettre dans les digues. Mon boulot, c'est de ramener des familles à bon port. C'est de la voile plaisance. Ils sont contents de faire une balade en bateau. Je ne peux pas jouer sur l'entrée et la sortie d'un port improbable. Péter en deux une dune, la nature n'aura qu'une envie, c'est de reboucher le trou qui aura été fait. Il nous explique que lui, ses digues vont maintenir et que si jamais il y a du sable qui rentre dans la passe, il va pouvoir l'enlever, comme c'est du sable, le rendre aux plages. Mais ces digues submersibles, elles vont créer des nouveaux courants, elles vont créer un système de tourbillon qui va faire qu'à terme, le sable va disparaître au profit de la vase. On a deux exemples catastrophiques sur les côtes. La plage de Saint-Brévin avec le port de Saint-Nazaire, l'estuaire de la Loire, c'est ni plus ni moins qu'une plage de vase. Et on retrouve le même phénomène au sud de La Rochelle, où le port des Minimes, quand il a été fait, a fait que la plage de Châtelaillon, à je crois 4-5 km, se retrouve aujourd'hui d'être une plage de vase. Mais lui nous explique ici que tout a été fait pour que ça reste tel quel. On ne peut pas couper en deux une dune dans un axe qui est l'axe où la tempête Xynthia a fait des morts en Vendée, des morts en Charente. C'est une ouverture à laisser rentrer l'océan dans les terres, sachant que les terres qui veut récupérer pour fabriquer son port, c'est des terres qui sont sous le niveau de la mer. On n'a pas d'eau en Vendée et à 600 mètres du port, il y a un bassin qui représente 340 000 mètres cubes d'eau douce. C'est un génie parce qu'il a décidé de vider ce bassin pour mettre toute la dune et la roche primaire qui va exploser pour faire son port. On appelle ça l'ancienne carrière parce qu'à l'époque, la roche primaire était exploitée. Ça a servi à construire les routes en Vendée. Ils ont dû arrêter à un moment donné d'extraire cette roche pour des raisons techniques. Ça faisait des micro-fissures à 3 km. Dans les maisons dans le bourg. Et il veut nous péter sur 15 ou 18 mètres de profondeur la roche primaire devant la plage pour faire son entrée de port en disant que ça n'aura aucun impact sur les maisons aux alentours. Alors pourquoi on a arrêté l'extraction de l'ancienne carrière? Et puis le dernier point, quand on creuse à 10, 15, 18 mètres de profondeur et qu'en dessous il y a les nappes phréatiques, c'est mettre en contact de l'eau de mer avec de l'eau douce et je crois que ça donne de l'eau saumâtre. C'est génial, compte tenu que la Vendée en 2019 a été un des premiers départements de France à être en zone rouge sécheresse. La communauté de communes paye déjà un port qui s'appelle Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qu'il faut tous les ans draguer à cause de la sédimentation. Sédimentation qui est très limitée du fait d'une chasse en haut du port, qui s'appelle la Vie, une rivière qui rentre dans le port et qui sort. Donc sur 100% de sédiments qui rentrent dans le port de Saint-Gilles, 95% naturellement grâce à la chasse est évacué. La campagne nous coûte 450 000 euros par an et on est propriétaire de la barge. Et je peux vous donner ces chiffres, je fais partie depuis 8 ans de la commission de surveillance du dragage du port. Un port pris 100% dans les terres sans une chasse, ça n'existe pas. Et lui nous explique que les sédiments, ils resteront dehors. Non, monsieur Chabot, je ne suis pas d'accord avec vous. Et ce n'est pas vos copains qui, par complaisance, vous rendent des études favorables. Et il y en a très peu qui vont me faire dire le contraire. Quand on sait que la sortie nationale, la moyenne nationale de sortie d'un bateau, c'est 7 jours. 7 jours, ça veut dire que des bateaux qui sortent 6 mois, il y en a qui, pendant 3 ans, ne sortent pas. Il parle d'un problème de place dans les ports en France. Il a raison, il manque 5000 places pour bateaux sur la façade atlantique. Mais si on changeait la législation quant aux bateaux qui ne sortent jamais, mais quand je dis jamais, c'est jamais, qui sont des bateaux apéro, ce qu'on appelle nous des bateaux apéro, on se retrouve avec de la place et beaucoup de place. Donc il y aura des bateaux. Ça, il n'y a aucun problème. Les 965 anneaux seront occupés. Maintenant, est-ce qu'ils sortiront? C'est une grande question. Est-ce qu'on a besoin d'un nouveau parking à bateau pour prendre l'apéro? On lui a fait des propositions, ce qu'on appelle des ports à sec. Un port à sec, c'est les bateaux, ils sont entassés dans un hangar ou entassés en extérieur et on en a besoin, on appelle. Ils le descendent sur une cale ponton et on l'utilise et il est regaré. Mais c'est apparemment pas assez noble pour lui. La lutte, elle a démarré il y a 17 ans avec une association qui s'appelle La Vigie Bretignolles qui n'ont de cesse que de mettre devant les tribunaux toutes les études qui ont été faites par des indépendants et des professionnels qui considèrent que c'est une aberration de casser un site remarquable, de faire une brèche dans une dune qui est le seul rempart pour protéger la population qui habite derrière. Et donc la Vigie, eux, depuis 17 ans, milite contre ce projet. Faut savoir que ces gens-là, c'est des anciens. Ils sont très à cheval administrativement parlant et ils ont organisé beaucoup de manifestations. Il y a eu une manifestation le 6 octobre qui a quand même réuni 2500 personnes, plus de 2500 personnes sur le site. Et dès le lendemain, les travaux ont commencé. Malheureusement, nos copains de la Vigie, les papis, les mamies, ils ne pouvaient pas combattre les engins de chantier. Et nous, les enfants et petits-enfants des anciens, on a dit qu'il fallait faire quelque chose. On a eu des exemples de ZAD qui ont marché, de combats qui ont marché, et toujours dans les Pays de la Loire, à Notre-Dame-des-Landes. Et on s'est dit qu'on était capable, nous aussi, de montrer en occupation du terrain qu'on n'était pas d'accord. On occupe le terrain, on veut que les recours ils soient donnés. Il y a des recours aux tribunaux, on les attend. Il est hors de question qu'il commence dès aujourd'hui à faire son trou alors que les tribunaux ne sont pas prononcés encore sur tout. Et actuellement, et grâce à notre action, donc le 6 c'était la manif, le 7 et le 8, il a commencé à éclater la dune, à arracher tous les arbres qui protégeaient la dune. On peut le voir, je te parle à côté des arbres qu'il a coupés. Dans la même semaine, on a été survolé par l'hélicoptère. On pense qu'il y avait sans doute le préfet, voire son chef de cabinet qui devait être à bord, puisque jeudi après-midi, il a ordonné l'arrêt des travaux en attendant que les recours tombent. Donc aujourd'hui, M. Chabot nous pointe du doigt, nous dit qu'on est des professionnels européens de la ZAD. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai 50 ans, je fais de la voile ici, j'ai plaisir à faire de la voile, du kitesurf, j'utilise ma plage au maximum et j'en profite au maximum. Je ne suis pas un voyou comme il me le montre, je ne suis pas un jeune chômeur qui me paye des vacances gratuites comme il le dit. Il nous fait passer pour tout et n'importe quoi, mais on se rend compte que la population locale n'est pas dupe, que les papis et mamies qui étaient ni pour ni contre, bien au contraire, mais on ne va pas embêter monsieur le maire, on va le laisser faire son projet, se rendent compte qu'ils n'avaient pas eu la bonne explication, qu'il a vraiment fait déjà des gros dégâts, nous soutiennent depuis le 7 octobre. Le village de la ZAD que tu as visité, il a été construit intégralement avec du soutien extérieur. par des anarchitectes copains, menuisiers, il y avait tous les corps de métier. On a en 3 semaines monté un village de résistance sur un terrain privé. C'est une personne qui est expulsable parce que son terrain, c'est un emplacement de ponton. Il lui a proposé 965 euros d'indemnité pour 1000 mètres carrés. C'est juste la honte. Enfin, c'est prendre vraiment les gens pour des imbéciles. Le village s'est très très bien organisé. Après, effectivement, le soutien extérieur, c'est aussi des copains qui ont investi d'autres lieux, d'autres bâtiments, qui ont construit un peu partout des cabanes, effectivement. Mais c'est que sur des terrains qui, de toute façon, au final, seront ce port. Donc nous, on n'est pas d'accord. On luttera jusqu'au bout pour faire en sorte que ce projet n'aboutisse pas. Mais ce n'est pas nous, les 25-30 habitants en permanence, en rotation sur le site, qui allons gagner. C'est l'opinion publique qui va faire craquer le préfet, qui va faire craquer. Nous, on est juste en occupation pour plus qu'ils reviennent avec ces engins de chantier, la gendarmerie et les agences de sécurité. On est prêt à discuter avec des personnes qui sont pour le port, mais on n'a pas encore eu de gens avec des arguments, mis à part économiques. Économique, ben moi, économiquement, quand il restera plus que de l'argent sur la terre, on mangera notre argent. Qu'est-ce qui va se passer ? L'argument économique n'est pas aujourd'hui un argument recevable. Les exemples sur la côte française, que ce soit en Normandie, en Bretagne, de la montée des eaux, des falaises qui s'éclatent, des maisons qui tombent dans l'océan, parce que la montée des eaux, c'est une réalité, parce que les dunes, elles sont fragiles et que l'océan grignote chaque année. Le trait de côte en France, sur la façade atlantique, recule d'un mètre par an. Hors tempête. Donc potentiellement, c'est un port à court terme. Dans 30 ou 40 ans, il n'y aura plus de port. C'est pas possible. Les gardiens de la dune, comme on aime à se faire appeler, parce qu'on est juste là pour protéger la dune, on a déjà rouvert aux touristes 3 fois la piste cyclable qui se trouve derrière les dunes, parce que avec les dégâts qu'il a fait de couper tous ces arbres, on peut constater, même regarde avec moi, tu vois les barrières en haut, et on a perdu à peu près 1 mètre, 1 mètre 20 de hauteur de dune, parce qu'il n'y a plus d'arbres pour retenir. Donc on a décidé une fois de plus de faire un appel à la population, de venir nous retrouver le 11 et le 12 janvier avec les sapins de Noël. Et on va refaire comme les moines l'avaient fait il y a 600 ans. On va essayer de remettre tous les sapins de Noël de telle sorte que ça bloque l'érosion de la dune, parce qu'on a pris déjà 4 gros coups de vent depuis 2 mois et demi. Beaucoup de pluie, et donc malheureusement, en termes de hauteur, par endroit, la dune elle est tombée de 1 mètre, voire même peut-être au milieu, là, 1 mètre 50, hein, comme on peut voir là.
Fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Et on va vous parler du budget, puisque le budget a exprimé ses voeux. Oui, alors le budget, parce que bon, mais en fait c'est là en général. Et si vous n'avez pas eu la chance d'entendre ces fameux voeux, vous allez tout de suite savoir dans quelle rubrique on se trouve. Et si vous n'avez pas eu la chance d'entendre fin décembre dans la plaine de l'Ain, vous allez, on va vous passer ce petit son, pardon, désolé. On va parler ce petit son.
Fort de la présence de la centrale nucléaire du Bugey sur son territoire depuis 1974,
Le conseil départemental de l'Ain tient à apporter son soutien à la candidature du site pour l'accueil d'un EPR de deuxième génération. Cet engagement est fondé sur la volonté de pérenniser une filière industrielle de pointe, présente sur le territoire depuis les années 70, et qui facilite l'accès à la ressource énergétique pour les entreprises de l'Ain. De sécuriser l'avenir de ce site et de la population par le remplacement des quatre acteurs actuels datant de 1973 qui ont vocation à être démantelés. Les élus du conseil départemental de l'Ain s'associent aux communes de Saint-Vulbas et de Loyette, à la communauté de communes de la plaine de l'Ain et la région Auvergne-Rhône-Alpes pour porter cette candidature au bénéfice de l'ensemble du territoire et du rayonnement de l'Ain.
Et oui, le budget veut changer le monde. Happy 2020. Vous avez bien entendu, EPR et budget vont construire l'avenir. Voilà. Donc ça a été annoncé fin décembre comme vœu pour le département de l'Ain. Et alors, il n'y a eu aucune. Faut savoir qu'il n'y a eu aucune concertation ni aucun débat pour balancer des phrases comme on vient d'entendre, c'est-à-dire accueillir deux EPR, parce que c'est deux réacteurs qui vont remplacer nos tout vieux réacteurs moisis du budget. Donc on entend aussi des phrases comme technologie de pointe, sécurité de site, sécuriser du site, etc. Et donc voilà, mais en tout cas il faut qu'ils mettent le paquet dans l'Ain pour nous faire avaler cette pilule, surtout quand on sait le fiasco de l'EPR de Flamanville, donc défaut de soudure, défaut de sécurité, gouffre financier. Donc voilà, on ne sait pas trop si on doit en rire ou en pleurer, parce qu'on parle de l'EPR de Flamanville, mais quand il s'agit de la fiabilité des centrales du budget, et ben la question se pose là, puisque, alors attention, préparez-vous, pompe de circuit de contrôle volumétrique et chimique hors service pendant 6 mois suite à une mauvaise maintenance, mais considérée comme apte au service par EDF, système qui permet d'injecter de l'eau et du bore pour arrêter la réaction nucléaire et refroidir le combustible qui ne fonctionnait qu'à moitié depuis 10 mois, des opérations de maintenance qui laissent un réacteur avec un moteur diesel en moins sans que personne ne s'en rende compte avant un mois, de multiples rejets radioactifs dans l'air à cause de travaux mal faits et d'une absence totale de réaction d'EDF lors du premier rejet, une mauvaise surveillance de la radioactivité dans les bâtiments réacteurs à cause de mesures faussées, des bits de bord en dessous du minimum autorisé en réseau, d'une erreur d'analyse et d'une méconnaissance de la configuration des circuits de son installation. Tous ces problèmes ont eu lieu, figurez-vous, entre mi-septembre et fin décembre 2019. Sans compter, évidemment, les deux arrêts en urgence successifs du réacteur 3, fin novembre, l'un pour un problème d'alimentation en eau des générateurs de vapeur, l'autre lié à un problème d'alternateur. Donc, on est très rassurés quand ils nous disent qu'ils vont faire un EPR qui va fonctionner génialement. Donc voilà, et alors il faut savoir que il y a des groupes militants locaux qui déjà luttaient depuis pas mal d'années dans le budget, donc ils vont assez rapidement avoir du pain sur la planche avec ces deux nouveaux réacteurs EPR. Et pour information, l'association Sortir du nucléaire Budget appelle les habitants du département à se mobiliser pour dire non à ces réacteurs et pour ne plus donner leur voix aux élus du budget qui ont fait cette déclaration. Donc voilà, l'enfer dans le budget, c'est déjà le cas, mais ça sera peut-être pire.
Et
mais
comme disait Magic System, le nucléaire, c'est la musique du... la maladie du budget.
Dans la rubrique internationale du Cagnard. Ah,
j'ai même pas mis mon casque, voilà. Je mets mon casque, très bien. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Bretignolles, la salle de Bretignolles, ça avait l'air super. Mais Bretignolles, c'est quand même à 10 heures de route d'ici, donc franchement, j'avais pas hyper envie. Par contre, une petite ZAD dans le budget. Bon, alors moi je vais vous parler d'un autre endroit qui commence par B, mais c'est pas le Bugey, c'est le Brésil. Et autant le Bugey, il y a des accidents nucléaires, et ben au Brésil, il y a des assassinats et des opérations militaires qui visent les leaders des populations autochtones et les militants et militantes écologistes. Et donc tout ça en même temps qu'il y a un vaste plan de déforestation et d'exploitation de l'Amazonie qui se prépare. Alors qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il y a début août, Emera Wajapi de la communauté Wajapi qui a été retrouvée morte dans une rivière, assassinée semble-t-il. Donc, Emera Wajapi, ce que je ne vous ai pas dit, c'était le chef de la communauté Wajapi. Et donc, du coup, ce monsieur aurait été peut-être, semble-t-il, en tout cas, on ne sait pas, mais bon, on suppose, assassiné par un groupe criminel qui convoiterait les terres de la communauté Wajapi, qui sont très riches en minerais. Les assassins présumés n'ont pas été inquiétés, et cette connivence s'est faite, en fait, entre le gouvernement brésilien et les groupes criminels qui opèrent en Amazonie. De même, le 1er novembre, un autre activiste indigène, Paulo Polino, membre de la tribu des Guajajara, les leaders locaux des Guardians das Floresta, les gardiens de la forêt, un groupe de défense de l'Amazonie, a été assassiné au cours d'une altercation avec des trafiquants de bois. Quelques semaines plus tard, deux opérations policières d'envergure sont lancées simultanément. Est-ce que c'est pour arrêter les meurtriers des leaders indigènes ou alors est-ce que ça serait pour complètement autre chose? Eh bien, pas de bol, c'est pas pour arrêter les meurtriers des leaders indigènes, mais plutôt pour arrêter les leaders indigènes et les militants de la cause environnementale. En effet, le 26 novembre, les locaux de l'ONG Santé et Joie, réputée pour son travail auprès des indigènes dans le bassin du fleuve Tapajós dans l'état du Pará, a été investi par la police et a embarqué ordinateurs et documents. Dans le même jour, quatre volontaires de la brigade Alter do Chão, qui est une organisation bénévole qui combat les incendies de forêt, sont appréhendés et placés en garde à vue au motif qu'ils auraient mis le feu à la forêt. Tranquille, tranquille, Bolsonaro, ça ne lui pose pas de problème. Ces opérations en fait indiquent que le pouvoir ne recule désormais devant rien pour museler, criminaliser et délégitimer tous celles et ceux qui s'opposent à son projet pour l'Amazonie. Son projet, c'est un projet hérité de la dictature militaire. Il veut ouvrir des autoroutes, ouvrir des ponts, ouvrir un nouveau barrage hydroélectrique, élargir et consolider les voies navigables pour permettre l'exploitation minière, agroforestière et agro-industrielle, y compris dans les aires naturelles protégées ou dans des terres indigènes. Ce projet est soutenu par de nombreux industriels agroalimentaires. Rappelez-vous les incendies monstres de cet été. Eh bien, en fait, ces incendies ont été en partie allumés par les industriels agroalimentaires. Il y a eu le 10 août quelque chose qui s'appelle le jour du feu. Et là, c'est des dizaines de foyers d'incendies qui ont été allumés simultanément à l'initiative d'éleveurs et de producteurs agricoles de la région qui entendaient témoigner leur soutien aux politiques amazoniennes de Bolsonaro. Alors même que le ministère de l'Environnement avait été averti bien à l'avance de l'organisation de l'événement, il n'a pas daigné réagir. Et alors, dans le même temps, Bolsonaro, on pourrait penser qu'il va soutenir peut-être un petit peu l'écologie. Enfin, il a eu tout un tas de discours autour de la. Du fait qu'il y avait une conspiration internationale contre le Brésil on le reprochait de laisser brûler l'Amazonie et rejetait la responsabilité des incendies tantôt sur la sécheresse, tantôt sur les ONG environnementales. Mais pour Noël, qu'est-ce qu'il a fait Bolsonaro? Il a gracié des policiers condamnés pour homicide. Il a accordé la grâce aux agents publics qui font partie du système national de sécurité publique qui, dans l'exercice de leur fonction ou en raison de leur fonction, ont commis des crimes. Et ça, il l'a accordé aussi aux militaires qui ont buté des personnes dans le cadre du maintien de l'ordre. Parce que maintenant, au Brésil, les militaires rentrent dans le maintien de l'ordre. On peut donc remercier Bolsonaro pour son cadeau, même si à ce prix, on n'a pas hyper envie de lui écrire une liste au Père Noël. Le Brésil plonge de plus en plus dans des schémas qui rappellent les heures les plus sombres de son histoire. Bolsonaro et sa clique reprennent tous les projets de la dictature militaire. Alors reprenons avec le slogan de Ludmila Teixeira, qui était une activiste brésilienne qui a popularisé le slogan devenu depuis viral au Brésil, Eli non, pas lui. Radio.
Radio Canu, Canu Info du vendredi.
Eh bien, bonsoir Mathieu, merci de nous avoir appelé pour poser cette question. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ACAB? Ce soir, apparemment, ça veut notamment dire les atomes de chou. C'est l'alternative dans le budget.
Mais sinon, ailleurs que dans le budget, ça veut dire alerte les courgettes, attaque Bretignol.
C'est fini pour le Canu Info du vendredi soir, il en reste 52.
Et on vous rappelle quand même les prochains événements. On se retrouve en manifestation le 9. Le 8, vous pouvez retrouver les AG féministes dès 18h à la Bourse du Travail. Le 7, il paraît qu'il y a une fête pour l'espace communal de la Guillotière à l'Amicale du Futur. Et vous retrouvez toutes ces informations sur Réunion. Avant de dire bonjour à Nice Pollution.